France Inter, le grand face-à-face, Ali Badou.
Le duel avec la directrice de Marianne, Natacha Polony, le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein, toujours confiné mais fidèle au rendez-vous. Salut les amis.
Bonjour.
Bonjour Ali.
Heureux de vous retrouver. Le moral est bon ?
Ça va.
Oui, le moral est bon.
On sent quand même une petite hésitation, mais je pose la question parce que Gilles, c'est le rituel du samedi. Avec la Fondation Jean Jaurès et l'IFOP, vous nous donnez des nouvelles justement du moral des Français, de notre moral. C'est pas un sondage, mais je rappelle que c'est ce que disent les cahiers du confinement que vous avez confiés à des dizaines de Français et que vous scrutez à la loupe depuis donc le début de notre vie confinée. Où en sommes-nous, Gilles ?
Alors, avant le discours d'Édouard Philippe présentant la stratégie de déconfinement à l'Assemblée nationale, l'état d'esprit des Français, je ne vais pas réussir à le présenter d'une formule comme je le faisais les semaines précédentes, mais autour de trois mots, épuisement, débrouillardise et paranoïa.
Ah oui.
L'épuisement est un épuisement psychologique qu'on sent monter, à la fois en raison de ce que l'on vit, de la longueur du confinement, de ce plateau dont on voit qu'il résiste, mais aussi en raison de ce que l'on sent de plus en plus qu'on ne vivra pas. Des projets qu'on doit différer, les mariages, les vacances, les déménagements.
Oui.
Et donc, il y a cette forme d'épuisement psychologique. Le deuxième mot, c'est la débrouillardise. On a parlé depuis des semaines de cette défiance qu'avaient les Français sur la question des masques envers les pouvoirs publics. Eh bien, ça se traduit par une débrouillardise sur les masques. Pas seulement pour s'en procurer, mais c'est la nouveauté de cette semaine, pour les confectionner. On a vu de plus en plus de Français qui nous disaient « Eh bien, j'ai téléchargé le patron du masque sur le site de l'AFNOR. » C'est le retour de la couture. Et de fait, il y a eu 800 000 téléchargements de cette
800 000 téléchargements de ce patron. Natacha, vous avez commencé à coudre vos démasques, vous aussi ?
Alors, j'avais commencé avant, en fait.
Bravo.
J'ai ressorti ma vieille machine à coudre, Zundapp 1950, increvable. Et je m'y étais mise parce que j'ai tout de suite pensé que pour réserver les masques manquants aux soignants, eh ben, il valait mieux se débrouiller par soi-même quand on en avait les moyens. Moi, vous savez, je suis pour l'autonomie des individus. Hein, donc, on essaye d'être libre et on organise les conditions de sa liberté.
Et on attendra le tuto masque par Natacha Polony. Donc, Gilles, l'épuisement, la débrouillardise et la paranoïa.
Et la paranoïa. Et ça, c'est un élément qui est très nouveau et c'est notamment autour de la question de la distanciation, qu'on appelait distanciation sociale, que le Premier ministre a appelé distanciation physique. Mais peu importe le mot, ce qui inquiète, c'est la chose. Et elle inquiète plus que le port du masque. À la fois en raison de ses difficultés pratiques, parce que c'est contraire à nos habitudes latines, mais surtout en raison de la charge symbolique qu'elle contient, ce sentiment que on va vers, au moins pour un temps, une sorte de perte d'humanité, d'une société parano, pour reprendre l'expression d'un des Français, ou pour reprendre l'expression d'une autre Française, elle craint cette situation dans laquelle, faisant référence à la formule de Jean-Paul Sartre, l'enfer, c'est les autres. Donc voilà un peu les trois mots, épuisement, débrouillardise, paranoïa, et puis juste d'une phrase, quand on regarde ce qui s'est passé après le discours d'Édouard Philippe, cette fois-ci avec des éléments de sondage quantitatifs.
Et on va y venir justement avec Jérôme Jaffray.
On retrouve le paradoxe qu'on a déjà évoqué, c'est-à-dire de mesures qui sont approuvées massivement, très massivement, avec, on va en parler sans doute avec Natacha, l'exception de l'école, et dans le même temps, une confiance au gouvernement qui n'est accordée que chichement. Peut-être qu'il y a des doutes sur la mise en œuvre de cette stratégie.
Un mot, Natacha, avant de passer justement au mode d'emploi du déconfinement que présentait le Premier ministre mardi dernier. Comment expliquer ce paradoxe que vient de nous exposer Gilles ? L'enfer, c'est les autres. On a évidemment peur ou on se méfie d'être trop proche de ceux qui pourraient nous contaminer. Et puis, d'un autre côté, il y a l'impatience de retrouver ses proches. Il y a l'impatience de retrouver ceux qu'on aime, mais qu'on n'a pas pu voir, qu'on n'a pas pu toucher, qu'on n'a pas pu rencontrer depuis parfois des semaines maintenant.
C'est justement ça qui est extrêmement violent, en fait. C'est le fait de prendre conscience que tout ce qui fait la beauté de la vie, c'est-à-dire le contact, la tendresse, va devoir être soumis à un contrôle permanent et à une méfiance, en effet, parce que méfiance vis-à-vis de soi-même, ne pas contaminer ceux qu'on aime, en particulier les plus âgés, et méfiance vis-à-vis des inconnus autour. C'est-à-dire, c'est en cela que cette crise va continuer à être extrêmement violente. Et ça, je pense qu'il y a, il ne faut pas sous-estimer le danger psychologique qu'il y a. Je pense qu'il y a de la souffrance psychologique, voire psychiatrique.
Oui.
Qui va devoir être traité. Je crains, hélas, qu'on sous-estime cette dimension-là, alors que, et déjà, la psychiatrie souffre beaucoup en France depuis des années d'un manque de moyens, d'un manque de soutien des pouvoirs publics. Or là, je pense qu'il y en a plus besoin que jamais, et on en parle très très peu, malheureusement, mais je pense qu'il doit y avoir beaucoup de fragilité, voire de passage à l'acte.
Et je
pense qu'on devrait entendre plus les psychiatres.
C'est ce que disent justement beaucoup de psychiatres des hôpitaux publics, pardon. Gilles, d'un mot sur cette contradiction apparente.
Oui, c'est très intéressant ce que vient de dire Natacha, parce que pour ne pas être trop
toujours
long, je ne l'avais pas relevé, mais il y a un des Français qui nous écrit: si ça continue comme ça, attendons-nous à remplir les hôpitaux psychiatriques. C'est exactement ce qui a été dit cette semaine, et dans une interview il y a quelques jours, Boris Cyrulnik disait, peut-être ça vaudra pour l'école, le confinement est à la fois une protection physique et une agression psychique. Donc il y a cette dimension-là qui, je crois, est une dimension très importante.
France Inter, le grand face-à-face, le duel.
Cette ligne de crête, elle repose aussi, et au fond avant tout, sur les Français, sur nos concitoyens, sur leur civisme et leur discipline. Aucun plan, aucune mesure, aussi ambitieuse soit-elle, ne permettront d'endiguer cette épidémie si les Français n'y croient pas ou ne les appliquent pas, si la chaîne virale n'est pas remplacée par une chaîne de solidarité. À partir du 11 mai, le succès ne reposera pas sur la seule autorité de l'État, mais sur le civisme des Français.
C'était mardi et le Premier ministre Édouard Philippe présentait donc le plan de déconfinement du gouvernement devant les députés à l'Assemblée nationale. On va parler de l'opinion, on va parler de la société, de la défiance ou du problème de la confiance que rencontre l'exécutif aujourd'hui. Mais sur le mode d'emploi, Natacha, qu'avez-vous pensé de ce que nous attendions maintenant depuis des jours, depuis des semaines, à savoir quelles seront les étapes, que faudra-t-il faire pour sortir du confinement, puisqu'on ne sortira pas d'ailleurs du déconfinement non plus.
Non, mais on ne sort pas du confinement en fait, et c'est ça
oui.
qui ressort de ce discours. Et en fait, ce qui m'a gêné dans ce discours est exactement ce dont nous parlions à l'instant. C'est-à-dire que il y a des bonnes mesures, des mesures indispensables, des mesures de bon sens, bien entendu. Premier point. Deuxième point, nous savons tous à quel point tout cela est complexe et mouvant, et nous devons garder à l'esprit que si ça se trouve, il faudra se reconfiner à un moment parce qu'on ne maîtrise pas tout. Mais justement, il faut accepter qu'on ne maîtrise pas tout, mais que ce n'est pas parce qu'il y a ce risque et parce qu'on ne maîtrise pas tout qu'il faut tout arrêter et avoir peur. C'est tout le paradoxe de la conscience du danger, mais en régulant la peur. Or, la façon dont Édouard Philippe a construit son discours me semble problématique sur certains points. Il prétend faire appel à la liberté des individus, au civisme, et en même temps, on entend en permanence une dimension punitive, c'est-à-dire une infantilisation. En gros, nous vous interdisons tout, et si vous ne respectez pas les interdits, ça se passera mal. C'est-à-dire
une infantilisation.
Une menace. Au lieu de s'appuyer sur l'intelligence des individus et sur leur volonté de respecter les règles qu'ils se fixent collectivement, parce que nous savons que c'est indispensable, mais tout en ayant conscience que il va falloir vivre comme ça et que donc il ne faut pas être terré avec la peur au ventre. Or là, je pense que c'est l'inverse, parce qu'on est toujours dans cette dimension qui oublie la citoyenneté, c'est-à-dire le libre arbitre des individus. Et puis surtout, on prend conscience que il y a des paradoxes, on va y venir, hein, là je
oui.
rapidement, des paradoxes énormes. C'est-à-dire qu'en gros, on estime qu'il est possible de condamner un siège sur deux dans un RER parce qu'il faut aller travailler. En revanche, on peut pas condamner un siège sur deux dans un cinéma Pourquoi ? Tout simplement parce que ce qui apparaît dans ce plan, c'est que ceux-là même qui depuis des décennies nous expliquent que l'industrie, on l'abandonne, ça sert à rien, et que la richesse de la France, ça va être le tourisme, ça va être les loisirs, etc., sont en train d'euthanasier tout le secteur de la culture, tout le secteur de la restauration, du tourisme, de l'hôtellerie, mais totalement, c'est une euthanasie précise, directe, voilà, parce que c'est du superficiel et parce que c'est du plaisir. Et à côté de ça, en revanche, on va favoriser le travail qui, lui, est concret, utile, rentable. Je pense que c'est oublier que le secteur de la culture, le secteur du tourisme, justement, sont très rentables et qu'ils sont très importants.
Jouissons sans entrave.
Il y a moyen de penser différemment. C'est pas jouissons sans entrave. C'est ayons conscience qu'il y a des gens qui travaillent dans ce secteur-là. Et qu'il y aurait eu moyen de penser les choses différemment plutôt que de faire peur et de dire vous allez en baver, vous êtes pas là pour rigoler.
Gilles, vous partagez l'analyse, discours punitif, infantilisation?
Alors, je ne le partage qu'à moitié. Ce que je partage, c'est que je crois le premier mot pour qualifier le plan d'Édouard Philippe, c'est la prudence. On voit que sur chaque arbitrage qui a été rendu, sur chaque micro-question, la balance est tombée du côté de la prudence, révélant ce faisant, c'est vrai, du contenu du plan de déconfinement, mais c'est sans doute vrai aussi de la manière dont chacun d'entre nous l'a reçu, ce que François Goguel appelait les tempéraments. C'est selon le rapport que chacun a au risque, le rapport que chacun a à l'optimisme que l'on peut juger ce plan qui est, c'est vrai, une ligne de crête et on mesurait en écoutant le Premier ministre la difficulté de l'exercice. Donc, je partage ce que dit Natacha sur ce point-là, c'est un discours et une stratégie d'extrême prudence. En revanche, là
non,
où
punitif,
je prends une
infantilisation.
Distance, alors, c'est justement là où je prends une distance par rapport à ce que dit Natacha, c'est sur l'infantilisation. Parce que le deuxième mot, j'ai une hésitation sur le deuxième mot, moi, qui est entre confiance, donc qui est exactement le contraire de l'infantilisation, et défausse. La confiance, parce que sur beaucoup de sujets, ce qu'a présenté Édouard Philippe, en fait, ressemble beaucoup à ce que et Natacha et moi appelions de nos voeux la semaine dernière, c'est-à-dire que l'État va beaucoup plus qu'il ne le faisait dans la première phase, s'appuyer sur les collectivités locales, sur les entreprises et sur les individus. Donc, de ce point de vue-là, je trouve que c'est plus de la confiance que de l'infantilisation. En revanche, j'ai une hésitation, est-ce que c'est de la confiance ou quelle est la part de confiance et quelle est la part de défausse ? C'est-à-dire que on a aussi le sentiment qu'il y a un mistigri qui est en train de passer de main en main. Il y a le président de la République qui a fixé la date du 11 mai et qui a refilé le mistigri au Premier ministre en lui disant « ben maintenant débrouille-toi pour présenter une stratégie qui rentre dans ce calendrier ». Et on voit maintenant le Premier ministre qui fait un peu la même chose avec les acteurs en fixant parfois des conditions dont on se demande comment ces mêmes acteurs auront la capacité de les remplir. Je pense notamment à la question des transports publics.
À la question des transports publics, mais vous vous êtes senti infantilisé ou qu'on vous parlait comme un gamin mardi dernier dans l'après-midi ?
Non, je n'ai pas senti ça. C'était plutôt, je trouve, de la confiance au sens où on a un pouvoir qui fait confiance aux citoyens, qui a à la fois demandé la confiance aux députés, oui, qui fait confiance aux citoyens, aux collectivités locales, avec aussi, il ne faut pas être dupe, une question de stratégie politique derrière, c'est-à-dire si ça rate, eh bien, il peut après espérer faire porter la responsabilité de cet échec et d'un reconfinement sur les Français.
On en parlera tout à l'heure avec Jérôme Jaffray. Natacha, vous parliez de la culture. J'en profite pour signaler que sur France Inter, il y aura mardi prochain toute une journée consacrée à la crise de la culture. Mais pour en revenir à ce qu'annonçait le Premier ministre quand il parlait de la réouverture des écoles, et on sait que c'est extrêmement compliqué et que ça vire au casse-tête, vous avez malgré tout compris ce qu'il voulait et ce qu'il présentait comme protocole à la fois aux élèves, aux parents et évidemment aux enseignants et aux chefs d'établissement ?
Très peu.
Très peu ?
Non, c'est-à-dire que déjà, première chose, c'est vrai que ce qui est resté extrêmement flou dans cette présentation, c'est le rôle des départements rouges, départements verts. Si finalement la seule différence, c'est l'ouverture ou non des collèges et l'ouverture ou non des parcs et jardins, c'est quand même assez léger. Et on ne voit pas bien en quoi c'est là que tout va se jouer, d'autant plus que justement les élèves de collège et de lycée sont à la fois ceux qui sont le plus à même de respecter des barrières, des distanciations, de mettre un masque, etc., et à la fois autonomes, donc capables de rester chez eux pour travailler de chez eux.
Oui.
L'idée que ce serait là que ça se jouerait, moi, me semble très, très étonnante. Et ensuite, il y a différentes petites choses, mais bon, c'est une accumulation. C'est-à-dire que sur les écoles, en fait, on a à la fois fait terriblement peur aux parents, tout en leur disant « mais on va quand même rouvrir les écoles ». Et on va les rouvrir dans des conditions qui semblent à certains précipité pour des raisons techniques, des raisons de, par exemple, de gestion de l'hygiène, de points d'eau, de propreté des toilettes, etc. C'est-à-dire que il y a des pays qui ont choisi de faire l'inverse, de renvoyer d'abord les lycéens et les collégiens à l'école et pas les plus petits. Donc différentes options pouvaient être mises sur la table. Je rejoins Gilles sur un point, c'est-à-dire qu'on a l'impression que l'ensemble des pouvoirs publics sont à la traîne de la date annoncée par Emmanuel Macron du 11 mai et essayent d'y coller comme ils peuvent en bricolant diverses choses avec des discours toujours contradictoires. Par exemple, des discours aussi, je le disais, on fait peur aux parents et en même temps on leur dit un enfant de 8 ou 9 ans ne portera pas de masque parce que de toute façon c'est pas la peine. Et pardon, mais autant un enfant de 6 ans, je comprends qu'il ne puisse pas porter de masque ou que ce soit très difficile, encore que justement il faut se fixer qu'on va leur apprendre petit à petit,
oui.
Autant 8-9 ans, ça devient un enfant peut être raisonnable et surtout on peut commencer à travailler ces choses-là. Mais là, c'est le genre de décision, donc on les envoie sans masque à l'école, sans expliquer exactement pourquoi. C'est ce choix-là qui est fait. Je pense qu'il y a là, une fois de plus, une base qui risque de provoquer la défiance.
Gilles ?
Oui, alors moi je crois pas que, enfin je ne trouve pas que ce soit flou. En revanche, je trouve que c'est extraordinairement complexe. Pour une fois, ça ressemble pas à un jardin à la française, mais à un jardin à l'anglaise. Natacha parlait à l'instant des collégiens. Si vous avez un enfant qui est en sixième ou en cinquième, il rentre le 18 mai, sinon il rentre après. Enfin, il rentre le 18 mai, sauf s'il est dans un département rouge, sans doute, ou sauf si la commune n'organise pas l'accueil, ou sauf si les parents ne veulent pas envoyer leurs enfants à l'école. Donc tout ça va faire une multitude de situations qui seront extraordinairement complexes sur un sujet qui est le sujet qui, de très loin, inquiète le plus les Français. J'ai dit tout à l'heure que, alors que les mesures étaient massivement approuvées, 60% des Français sont contre la réouverture des crèches et pour ceux et des écoles, et pour ceux qui ont des enfants en crèche ou à l'école, ce pourcentage est encore supérieur. Et 80% d'entre eux sont inquiets d'envoyer leurs enfants à l'école. Donc on est sur un sujet de crispation majeure, ce que, pour partie, on peut comprendre. Hein, on a vu que le conseil scientifique était sur un calendrier qui était plus long. Natacha Polony l'a évoqué, il y a des pays qui sont sur d'autres stratégies, et même un certain nombre de pays comme l'Italie qui renvoient la rentrée carrément au mois de septembre.
Mais Jean-François Delprécy l'a dit clairement, il a dit que c'était une décision politique et non pas une décision scientifique.
Bien sûr, mais le fait que le conseil scientifique dise ça pèse psychologiquement dans la perception que les parents et les Français en général peuvent avoir de cette affaire.
Oui.
Tout cela en dépit du fait que, quand on regarde l'évolution des connaissances entre le début et aujourd'hui, on sait maintenant, ce qui n'était pas le cas, que les enfants sont moins porteurs, qu'ils sont moins transmetteurs de la maladie, et que des précautions, quand on regarde le protocole sanitaire qui est en train d'être discuté, les précautions sont extrêmement importantes. Reste encore une fois à savoir si les conditions qui sont fixées dans la pratique peuvent être appliquées. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'il faudrait que l'école reprenne, et il le faut pas seulement pour l'économie, pour les parents ou pour les enseignants. Je crois qu'il le faut pour les enfants, il le faut pour les enfants en général qui ont besoin de changements d'espace, de rythme et de sociabilité. Et il le faut notamment pour les plus fragiles, parce qu'il y en a beaucoup qui sont en train de cumuler beaucoup de difficultés en ce moment et qui vont prendre un retard qu'il sera encore plus difficile de rattraper après.
France Inter, le grand face-à-face, Le duel.
Maintenant, ce qui compte, c'est recréer de la richesse. On a besoin. Là, on a créé de la monnaie, en fait. Hein, depuis deux mois, on distribue de l'argent, chômage partiel, PGE. Ce qu'il fallait faire, hein, c'était l'oxygène. Mais maintenant, il faut qu'on recrée de la richesse. La seule manière de créer de la richesse, bah, c'est les entreprises. Là, pour le moment, on a donné énormément d'argent pour éviter les faillites à court terme. Et c'est pour ça qu'il faut surtout pas, je l'ai dit au Premier ministre tout à l'heure, arrêter ou même réduire le chômage partiel trop vite.
C'était Geoffroy Roux de Bézieux, le président du MEDEF, qui réagissait à la hausse spectaculaire du chômage au mois de mars, plus 7%, augmentation historique. Et il réagissait aussi évidemment au discours du Premier ministre devant l'Assemblée nationale. On a entendu également cette semaine la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, dire que le dispositif d'aide et de chômage partiel ne pourrait pas continuer ad vitam, qu'il fallait bientôt penser, imaginer, retrouver une reprise de l'activité parce que ça coûte trop cher, tout simplement. Et pour résumer la pensée de la ministre du Travail, Natacha, est-ce que vous comprenez la logique de Geoffroy Roux de Bézieux ou celle de Muriel Pénicaud? Il va continuer à falloir venir en aide aux entreprises et à financer le chômage partiel, ou est-ce qu'au contraire, c'est trop coûteux, il va bientôt falloir se remettre dans des dispositions plus ordinaires?
C'est-à-dire que on s'aperçoit que là aussi, il y a des disparités entre pays. Le plan annoncé par l'Allemagne, par exemple, est finalement beaucoup plus important. Alors, certes, l'Allemagne a une balance commerciale qui n'est pas la nôtre, tout ce qu'on veut, des excédents budgétaires, mais pour autant, nous savons tous que dans cette crise, il va falloir créer un amortisseur absolument énorme. En revanche, ce qui me semble frappant, c'est justement le fait qu'on a choisi de ne pas faire reprendre certains secteurs. Et je parlais tout à l'heure du secteur de la culture, c'est-à-dire des secteurs où là, il n'y a pas d'amortisseur, il n'y a pas de chômage partiel, il y a des gens qui risquent de crever de faim, tout simplement. Et d'autres encore qu'on ne voit même pas, c'est-à-dire par exemple quand on décide de ne pas rouvrir les restaurants, alors que certains pourraient, selon des règles très strictes, le faire parce qu'ils sont capables de s'organiser. Quand on choisit de ne pas faire ça, les restaurants bénéficient des aides de l'État. En revanche, tous les fournisseurs derrière, toute l'agriculture qui ne vit que de la restauration, va crever. Donc, je pense que nous ne mesurons pas encore l'ampleur des aides qu'il faudra et l'ampleur et la nécessité majeure de faire repartir certains secteurs, encore une fois, avec toutes les mesures essentielles de protection, mais il y a moyen d'inventer des choses. Et là, le tort qu'on aurait, ce serait de considérer que certains secteurs sont accessoires, qu'ils relèvent du superficiel, du plaisir. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la notion de plaisir et de mode de vie, en fait. C'est-à-dire qu'on a dans la tête qu'il y a certains secteurs, ils peuvent crever parce que c'est la joie de vivre des Français. Donc ça, on peut l'éliminer. Je crois que c'est profondément dangereux.
Gilles.
Avec l'indemnisation du chômage partiel, l'État a fait un effort budgétaire qui est absolument considérable. Hein, c'est des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliards. Il y a eu une forme de nationalisation des salaires. Donc, il y a eu cet effort considérable et pourtant, il y a déjà une crise sociale qui est importante avant même les effets que l'on ne connaît pas encore sur l'augmentation du chômage, parce que en dépit de ce dispositif, et qui est souvent plus généreux qu'ailleurs, eh bien il y a beaucoup de Français qui ont eu une baisse de leur revenu, d'abord parce que le chômage partiel ne couvrait pas la totalité, mais parce que il ne reposait pas non plus sur les heures supplémentaires, sur les primes. Quand dans le même temps vous aviez une augmentation des postes d'alimentation, il y a beaucoup de Français qui sont dans la difficulté d'ores et déjà. Et donc, je crois qu'il faudra être progressif sur la levée du chômage partiel, qu'il faudra aussi et surtout revenir sur la réforme antérieure qui durcissait, je crois, de manière qui avait déjà été fortement contestée, les conditions d'accès à l'indemnisation du chômage, qu'il faudra regarder de près, Natacha a raison sur ce point, la question des intermittents, parce que le secteur de la culture est profondément et durablement affecté par cette crise. Et puis, là, Geoffroy Roux de Bézieux a raison aussi, à un moment, et à un moment qui s'approche, il va falloir recréer de la richesse, c'est-à-dire recommencer à travailler. Et c'est pas seulement parce que cette crise coûte cher au pouvoir public, c'est parce que la longueur même de la crise finit par créer des effets de rupture et fait que la reprise sera plus difficile.